pertinente, intelligente, énergique et souriante. Voici l'effet. L'effet Normando. Réseau Cogeco. Voici l'effet Normando avec Nathalie Normando.
Je vous souhaite un très bon début de semaine. Bienvenue au Réseau Cogeco pour notre, oui, Cogeco, pour notre 10 à midi aujourd'hui. Je vous propose un menu en quatre temps. Tout d'abord, selon vous, qui sont les grands gagnants de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé? Je vous partage en quelques instants ma réflexion. Réflexion que j'ai eue suite à la lecture d'un article dans le Journal de Québec, publié également dans le Journal de Montréal, sur les effets, j'oserais dire les dommages collatéraux liés à la vaccination obligatoire. Alors, je vous demande, qui sont les grands gagnant de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. On en a beaucoup parlé. On va continuer d'en parler. D'ailleurs, il faut mettre à notre calendrier, il faut rayer, il faut mettre un X sur la date du 16 octobre. Le 16 octobre au matin étant le jour où on va devoir composer avec probablement des milliers de travailleurs et travailleuses du réseau de la santé qui sont absents parce que non vaccinés. En deuxième sujet, je vous propose de parler de la pénurie d'éducatrices en milieu, en service de garde scolaire. Selon les données qui ont été rapportées, entre autres, par le journal Le Soleil en fin de semaine, 1357 éducatrices dans le réseau des garderies scolaires manquent à l'appel. Ajoutez à ça 51 000 enfants qui sont en attente d'une place en garderie. C'est vraiment un casse-tête pour les parents. Et je ne sais pas si vous avez écho de ça, mais il y a même des parents qui, complètement désespérés, ont même acheté des espaces publicitaires dans certains journaux locaux pour faire la promotion de leur bébé en disant, écoutez, en interpellant les garderies de leur territoire, de leur quartier, mon bébé, le meilleur bébé du monde, vous voulez avoir mon bébé dans votre garderie. Et je vous demande, bien, lorsque vous êtes mal pris la semaine, bien, qui s'occupe de vos enfants? Qui garde vos enfants? Votre père, vos parents, les membres de votre famille, le voisin, la voisine, enfin, c'est vraiment une situation extrêmement difficile pour bien des familles au Québec. Et il a aussi été beaucoup question en fin de semaine de racisme systémique, entre autres dans la foulée du rapport de la coroner Guéanne Kamel, qui appelle le gouvernement à reconnaître le racisme systémique. Je vous pose une question qui pourra vous sembler extrêmement dure et crue. Croyez-vous que la société québécoise est raciste? Et en terminant, on va parler un peu de suremballage, un peu de sujet, d'un sujet incidence environnementale. Est-ce que vous seriez prêt à bouder un produit qui contient trop d'emballage? Alors, on va bien sûr s'attarder à cette question qui, nul doute, vous rejoint un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, permettez-moi de partager avec vous les coordonnées de cette émission, texto 98-98-5 ou encore le courriel nathalie@98-5fm.ca. Numéro de téléphone pour nous joindre, toujours les mêmes, 514-790-9850 ou lourd 1-866, numéro sans frais, 1-866 790-9850. Pour notre premier sujet, je souhaite partager avec vous une observation que j'ai faite en fin de semaine en parcourant le Journal de Québec et le Journal de Montréal. En fait, il y avait un article consacré aux impacts de la vaccination obligatoire chez les RPA. Les RPA, c'est les résidences pour personnes âgées. Et le titre est le suivant, « Des résidences pensent fermées par manque d'employés vaccinés ». Et tenez-vous bien, on estime à 20 % le nombre de travailleurs en RPA qui n'ont pas encore reçu leurs deux doses. C'est une réalité extrêmement triste qui va créer des impacts, qui va créer des dommages collatéraux, entre autres chez les personnes aînées, chez nos aînés qui vivent dans les résidences pour personnes âgées. Certaines devront peut-être pouvoir se trouver une autre résidence parce que l'article réfère à une ressource, entre autres le manoir Victoriaville, qui a dû fermer ses portes compte tenu du manque d'employés ou du manque d'employés anticipés en lien avec la vaccination obligatoire. Il y a même d'autres établissements qui vont être obligés, en fait, qui envisagent de défier le gouvernement pour pouvoir continuer d'offrir des services adéquats. Moi, lorsque j'ai lu l'article, je me suis dit, attends une minute là, le gouvernement a annoncé en grande pompe l'obligation pour les travailleurs de la santé de se faire vacciner. Je pense que collectivement, on est capable d'acheter ça parce que dans la tête de plusieurs, on se dit, les travailleurs du réseau de la santé ont devoir d'exemplarité. Ils travaillent avec les personnes les plus vulnérables, avec les patients dans les hôpitaux, avec les personnes âgées en CHSLD ou dans les résidences pour personnes âgées. Alors, je pense qu'on est une majorité de Québécois qui avons acheté ça, l'idée de vacciner de façon, en fait, d'obliger la vaccination chez les travailleurs de la santé. Par contre, en lisant cet article en fin de semaine et en ajoutant un article paru dans Le Soleil de la semaine dernière où on apprenait qu'il y a 11 000 soignants, tenez-vous bien, il y a 11 000 soignants qui, le 16 octobre au matin, pourraient se retrouver à la maison, sans salaire, faut-il le préciser, mais quand même, en congé forcé d'une certaine façon, parce que, ayant refusé de se faire vacciner ou encore ne pouvant être vaccinés. J'apporte une petite nuance parce qu'il y a des travailleurs qui ne peuvent pas être vaccinés, d'autres qui refusent d'être vaccinés. Imaginez, là, demain matin, 11 000 soignants qui manquent dans notre réseau de la santé, ça va créer une brèche importante dans le réseau de la santé. Là, maintenant, on a des propriétaires de résidences privées qui lèvent la main pour dire au gouvernement « Écoutez, la vaccination obligatoire, ça va avoir aussi un impact chez nous et ça va avoir un impact sur les services qu'on donne à nos résidents. » Je vais vous donner des exemples très concrets. Diminution de la fréquence des bains. Changement moins régulier des culottes d'incontinence. Vous avez bien entendu, là. Il y a peut-être des personnes âgées, nos aînés, en RPA, dans une résidence, qui vont se retrouver avec une culotte d'incontinence, qui vont devoir porter 4 heures plutôt que 2 heures, ou enfin, qui vont devoir porter un peu plus longtemps, parce qu'il n'y aura pas assez de personnel pour leur permettre d'améliorer leur confort. Servir des repas réchauffés plutôt que des repas frais, diminution de l'entretien ménager de la lessive, du personnel de loisirs affecté aux soins des aînés. Lorsque je lisais tout ça en fin de semaine, je me disais, je pense qu'on a un problème. Comme dit l'expression « Houston, we have a problem ». J'ai l'impression que le gouvernement, lorsqu'il a partagé, en fait, pris sa décision d'imposer la vaccination obligatoire chez les travailleurs du réseau de la santé, il s'est dit, et on le fait pour entre autres protéger les plus vulnérables de notre réseau de la santé. Mais en même temps, est-ce qu'il a considéré l'ensemble du portrait avant de statuer? Est-ce que le gouvernement a pris en compte les tenants et aboutissants de sa décision? Est-ce qu'on a, par exemple, réalisé une espèce d'étude d'impact? J'ai étude d'impact. Est-ce qu'on a au moins fait la liste des impacts ou des dommages que pourrait créer une telle décision sur le réseau de la santé? À l'évidence, la réponse, c'est non. C'est non. C'est décevant. Marquez, j'ai confiance au ministre de la Santé, Christian Dubé. Je ne doute pas de sa sincérité lorsqu'il a affirmé il y a quelques semaines vouloir mieux protéger nos personnes les plus vulnérables dans le réseau de la santé. Je ne doute pas du bien fondé de sa décision. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas regardé dans notre angle mort lorsqu'on a pris la décision d'imposer la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Alors, je vous demande aujourd'hui, selon vous, qui sont les grands gagnants de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé? Vous pourrez être en désaccord avec moi, là, ça va me faire plaisir d'entendre un autre point de vue que le mien. Mais dans la liste des avantages et des inconvénients, aujourd'hui, hein, après plusieurs semaines après cette décision, j'ai l'impression qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. En fait, je vais vous dire le fond de ma pensée. J'ai l'impression qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Et les perdants, malheureusement, c'est souvent ceux qui sont au bout de la chaîne, c'est-à-dire nos personnes âgées, qui vivent des situations dans certains milieux qui sont déjà difficiles, qui sont déjà, qui vivent de l'insécurité, du stress. Et là, on va venir ajouter à leur insécurité et leur stress. Je trouve ça très dommage, si vous voulez mon avis. Très, très dommage. Je trouve ça très, très triste. Maintenant, est-ce qu'il y avait une autre solution? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que le gouvernement, en annonçant sa décision d'imposer la vaccination dans le réseau de la santé, en toute transparence, nous disent quels seront les impacts qu'il a anticipés. Parce que si on avait eu l'ensemble du portrait, croyez-vous vraiment, entre vous et moi ce matin, croyez-vous vraiment qu'on aurait, levé la main comme on l'a fait pour dire au gouvernement « Bravo, bravo, vous avez pris la bonne décision ». Est-ce que vous croyez vraiment qu'on aurait accepté qu'on mette en péril aujourd'hui des services qui sont destinés à nos personnes âgées dans les RPA, dans les résidences pour personnes âgées. Même chose dans les CHSLD en passant, là, parce que c'est pas... Bon, puis il y a aussi les aînés, mais je pourrais vous parler évidemment de tous les autres patients dans notre réseau de la santé, ceux qui sont dans nos hôpitaux, ceux qui sont dans nos urgences. Alors, il va y avoir un effet domino, selon moi, absolument terrible. Alors, il y a Olivier déjà qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Je suis un peu longue peut-être ce matin, mais savez-vous quoi? En fin de semaine, là, ça m'est apparu, là, j'ai vu ça, je me suis dit, voyons, ça se peut pas. Je peux pas croire que, dans le fond, savez-vous quoi? On a voulu faire un bon coup, On avance d'un pas, puis là, j'ai l'impression qu'on va reculer pas de deux pas, on va devoir reculer de trois pas. Puis je me souviens que vous avez été une majorité d'auditeurs à me dire « Nathalie, il faut pas que le gouvernement recule sur la vaccination obligatoire ». Vous avez été nombreux à me dire ça. Moi, j'ai acheté ça. Fine, parfait, pas de problème. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, attends une minute, là, la décision du gouvernement va avoir des conséquences extrêmement dommageables. Puis faut-il le rappeler auprès d'une clientèle qui est très, très fragile, qui est très vulnérable? Olivier veut s'exprimer sur le sujet. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Je vous écoute.
Moi, je dis que les grands perdants, ça va être tous les patients qui sont dans les hôpitaux, les personnes âgées, ces choses-là. Mais je trouve que la mesure du ministre Dubé est un peu trop extrême. Moi, ma conjointe, elle va perdre son emploi le 15 octobre parce qu'elle n'est pas vaccinée, parce qu'elle a un facteur 5 de l'édune dans le sang, donc elle ne veut pas se faire vacciner. Et à cause de ça, elle perd son emploi. Mais ma blonde, elle travaille dans un centre jeunesse. Elle n'est en contact avec personne. Elle travaille dans un bureau. Je comprends pas pourquoi des fois les mesures vont s'attaquer jusqu'au monde du bureau. Qui n'ont pas de contact avec de patients, avec personne. Elle travaille dans son bureau fermé et elle doit être vaccinée.
Olivier, c'est un... Non, mais Olivier, c'est un excellent point. Un, votre conjointe, on s'entend, là, elle a un état de santé qui ne lui permet pas de recevoir la vaccination. Ça, c'est correct. Mais moi, je trouve que c'est un excellent point, Olivier. Savez-vous quoi? Votre conjointe, là, qui est en administration, là, moi, je pense que c'est une hérésie qu'elle se retrouve chez vous à la maison le 16 octobre, congé sans solde. Mais peut-être qu'elle serait prête à donner un coup de main dans son établissement. Puis en passant, ça n'est pas là pour faire de l'administration. Qui va faire son travail, votre conjointe, comprenez-vous? Là, il va avoir un effet domino terrible là, dans le réseau.
La liste de rappel.
Oui. La liste de rappel. Ben, parlons-en, Olivier, de la liste de rappel, parce que dans l'article que j'ai lu en fin de semaine, c'est quoi le plan B? Bon, vous dites la liste de rappel, mais pour les résidences pour personnes âgées, c'est les agences privées. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de ressources dans les agences parce que le réseau de la santé, ça rentre à pleine porte dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, les infirmières, infirmiers, les préposés en provenance des agences.
La liste de rappel au centre jeunesse est vide, elle aussi. Là. Il n'y en a plus tout le monde sur la liste de rappel.
Voilà.
Ça va être beau le 15 octobre.
Le 16 octobre au matin, mais c'est très bien dit, Olivier. C'est pour ça que je regardais ça en fin de semaine, je me disais, il y a quelque chose que le gouvernement n'a pas vu, ou s'il l'a vu, il s'est bien gardé de partager avec lui le constat que je fais ce matin. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé. C'est très gentil à vous. Ça permet de mettre la table pour la suite des choses. Il y a Peter également qui souhaite s'exprimer. On va aller à une courte pause, Peter. Je vous demande d'être patient et je continue d'accueillir vos réactions, texto, courriel. Selon vous, qui sont les grands gagnants de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé?
Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'Effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
10h21, France nous écrit qui sont les grands gagnants de la vaccination obligatoire. Les compagnies pharmaceutiques, écrit-elle en lettres majuscules sur notre texto. Richard m'écrit, Madame Normando, voyons donc, vous venez de vous rendre compte des effets de la décision du tour de force du ministre Dubé. Mais c'est pas que je viens de m'en rendre compte, Richard, mais je me disais, en bon gouvernement, j'imagine qu'on a prévu tout ce qu'il fallait pour éviter qu'il y ait des ruptures de service. Mais de toute évidence, ce n'est pas ce qui va arriver. Mais il y a une tendance ce matin qui se dessine, en fait, qui est très, très forte, qui est toujours très, très forte, devrais-je dire, c'est que vous êtes en faveur de la vaccination obligatoire pour nos travailleurs de la santé. Et pour la conjointe d'Olivier, qui travaille dans un centre jeunesse, dans les bureaux, Olivier, il semblerait que votre conjointe n'a qu'à demander son billet médical et puis il semblerait aussi que les employés administratifs qui ne sont pas en contact avec les patients ne sont pas obligés d'être doublement vaccinés. Enfin, c'est l'information que plusieurs auditeurs nous ont transmise. Merci de votre patience. On va aller joindre Peter. Bonjour, Peter.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Oui, ça va bien, Peter. Je vous écoute.
Oui. Moi, je trouve que ça va pas diminuer le danger que les personnes de la santé soient vaccinées parce que, une personne vaccinée fait pas des tests à tout bout de champ, donc tu peux pas savoir s'il est porteur du virus, s'il est asymptomatique. Tandis que les personnes qui sont pas vaccinées, ils le font tester 3 fois par semaine. Donc, tu sais, on est sûr qu'ils portent pas le virus. De un. De deux, je comprends pas pourquoi non plus le ministère de la Santé s'entête à empêcher les médecins de faire du télétravail s'ils veulent pas se faire vacciner. C'est un aide de plus pour la société, là.
Oui, exactement, tout à fait. Mais moi, je veux bien que ce soit clair, puis je suis pas contre la vaccination obligatoire, là, contrairement peut-être à ce que peuvent penser certains auditeurs. L'enjeu, c'est pas ça. Le gouvernement a pris sa décision, parfait, on respecte sa décision. Maintenant, comment on va composer avec des ruptures possibles de services dans certains de nos établissements? Moi, quand j'ai des propriétaires de résidences pour personnes âgées en fin de semaine qui disent on va devoir soit diminuer les services, soit fermer nos portes, ou encore envisager d'engager des employés non vaccinés, je me dis, on a peut-être un problème, là, non?
Bien, déjà, le fait d'obliger le monde à se vacciner, sinon ils perdent leur job, c'est déjà ça, le problème.
Oui, exactement.
S'ils ont qu'à tester tout le monde tout le temps, comme si on est sûr que le virus n'est pas rentré dans les hôpitaux ou dans les CHSLD ou des RPA ou toutes ces affaires-là.
Oui, vous avez raison.
La vaccination n'empêche pas le fait que tu peux transmettre le virus. Ils renforcent la vaccination. Mais moi, selon moi, c'est pas ça qu'il faudrait qu'ils fassent. C'est vraiment faire tester leurs employés dans les hôpitaux ou dans les CHSLD, comme qu'ils le font à chaque trois fois semaine. Puis là, tu es sûr que le virus ne rentrera pas là.
Oui, merci beaucoup, Peter, d'avoir appelé. Vous n'êtes pas le seul qui proposait cette solution. En fait, le gouvernement, rappelez-vous, là, avant d'imposer la vaccination obligatoire, il y avait une obligation pour les travailleurs du réseau de la santé d'être testés trois fois semaine. Il fallait les rémunérer en conséquence. Souvent, le test ne pouvait pas être fait dans l'établissement où était le travailleur. Donc, c'était compliqué là, pour le plan de l'organisation du travail. Le gouvernement a dit non, on va imposer la vaccination obligatoire. Et là, on anticipe évidemment les effets de cette vaccination obligatoire. Mais je comprends, là, vous êtes d'accord que la vaccination obligatoire, parfait. Moi, ce que je dis ce matin, mais on fait quoi le 16 octobre au matin, là, lorsqu'on va se retrouver avec des résidences pour personnes âgées, avec des hôpitaux, des CHSLD qui vont en arracher? Là. C'est ça le sens de la question. Là. On va aller joindre Marc-André. Bonjour, Marc-André.
Oui, bonjour, Mme Norando.
Je vous écoute, mon cher.
Oui, écoutez, moi j'aborde un peu dans le même sens là, que votre interlocuteur précédent, à l'effet que là, en obligeant comme ça, on respecte la décision, mais forcément, ça va entraîner des ruptures de services conséquentes. Et moi, écoutez, je suis un infirmier propriétaire d'une petite résidence de personnes âgées de 9 résidents. Et j'ai une personne, entre autres, qui ne veut pas être vaccinée, ce qui entraîne une rupture de service. Et j'en ai un autre qui est entre deux, elle n'a pas encore sa deuxième dose. Donc, forcément, ça va avoir des conséquences assez significatives sur l'ensemble des soins. Et ça va entraîner aussi une augmentation des heures de travail. Mais écoutez, le TSO, la réalité dans le milieu, c'est qu'à un moment donné, les gens sont en bout de souffle et à force d'en demander, ça favorise pas la rétention. Sinon, qu'ils vont se relocaliser dans un autre milieu de travail. Écoutez, quand il y a des filles de 15-20 ans qui abandonnent le réseau, il y a vraiment un problème. Et moi, je vous fais une prédiction. Écoutez, on est à 11 000, je pense qu'il était prévu là, dans le milieu public là, qui était pour lâcher en lien avec la vaccination obligatoire. On parlait, je pense, de 6 000 ou 8 000 dans le privé. Mais oui. Quand ces gens-là vont quitter le bateau, Mme Normando, là, l'ampleur de la charge qui va rester les gens qui restent vaccinés comme on veut, écoutez, s'ils tiennent déjà pas le fort maintenant, là, que c'est, vous pensez que ça va être, mais qu'il y ait 11 000 ou 15 000 personnes qui vont quitter.
Bien, c'est ce que j'anticipe. Puis en terminant, Marc-André, on va aller joindre Chantal après vous. Vous, là, vous êtes dans le milieu des ressources pour personnes âgées. Ça va être quoi, votre solution?
Bien, écoutez, moi, je vais proposer peut-être des 12 heures. J'ai bien beau fouiller à gauche puis à droite. Écoutez, les agences sont vides. Ils s'en vont dans les milieux. Puis notre réalité, à nous aussi, les petites résidences, on est des centaines. Écoutez, il risque d'avoir énormément de fermetures. Mais comment voulez-vous qu'on compétitionne avec le milieu public, avec les augmentations de salaire? Il y a une réalité, mais il y a une demande de services pour nous. Je veux dire, nous, on est une petite ressource de type familial. Écoutez, c'est une autre dynamique, mais on n'est pas en mesure. Puis on a bien beau dire qu'on va prendre des gestionnaires. C'est moi le gestionnaire, je suis le plancher à temps complet.
Ben ouais,
à un moment donné, exactement. Je travaille de nuit, de jour, je vais faire quoi? Comprenez-vous? Et au final, les grands perdants, c'est les résidents.
Voilà, c'est ce que je crois aussi. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ah, des fois, je vous écoute, puis je dis, écoute, on se lève les manches, puis on va aider tout ce beau monde-là. Là. C'est pas possible. On va aller joindre Chantal. Bonjour, Chantal.
Bonjour, Nathalie.
Ça me fait plaisir, Chantal. Vous travaillez dans un centre de dépistage, c'est ça?
Exactement. Puis je voulais revenir sur un des personnes qui ont appelé avant moi, qui disait de faire dépister tous les gens, le personnel. C'est impensable. Savez-vous la demande, le temps, l'énergie? On a beau faire des tests de gargarisme, ça marche pas une fois sur deux. Les gens ne font pas le test correctement. Alors donc, on va faire des tests rapides. Les tests rapides sont en quantité limitée. Alors, on va prioriser qui? Les enfants, parce que là, les éclosions arrivent dans les écoles primaires. Présentement, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est là qu'on se rend compte que le vaccin fonctionne. C'est simplement la majorité, je vous dirais même 90% des gens qui viennent se faire dépister. C'est les garderies, les écoles primaires. Le reste des gens sont là qui viennent en cas ou ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors, ça, là, c'est une... Quand je passe des patients, quand je fais le triage et que j'arrive, la personne a des symptômes et que là, je leur demande, est-ce que vous avez reçu votre vaccin? Ils me répondent non. Pour nous, les personnels de la santé qui travaillent dans les centres de dépistage, c'est une grosse demande qu'on fait. On remplit, on n'a pas le choix, on passe le test, mais c'est là qu'on se rend compte que le vaccin fait effet. Puis il faudrait que tout le monde vraiment aille se faire vacciner. Là, c'est... Fait que non, pour les tests de dépistage, je pense que ça serait pas la solution. Ça serait encore là. Il va falloir que des infirmières, il va falloir que du temps encore soit donné à ces tests-là pour que les gens les fassent. Alors, ça n'a pas d'allure.
Moi, j'aime tellement votre témoignage, Martin Chantal, parce que les tests rapides, effectivement, on a pensé à un moment donné que c'était la solution, mais vous dites non, 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 là, c'est compliqué.
C'est pas compliqué, c'est qu'on en a des nombres illimités. On n'en a pas 75 millions par jour. Donc, souvent, le matin, on en a. Puis là, les gens, ils se dépêchent à venir le matin parce qu'ils savent qu'on en a le matin. Oups, vers 10h, on arrête parce que là, les personnes qui travaillent dans les laboratoires fournissent pas. Fait que là, ils prennent une pause, on attend un peu, on reçoit des nouveaux tests, on recommence. Donc, c'est pas que c'est aléatoire. Là, on peut en avoir quand on en a. Puis la demande aussi. Alors, c'est très... Moi, j'ai travaillé dans le centre de vaccination. On était des poules de luxe, je pourrais vous dire. Et là, je suis au dépistage et c'est une vraie fourmilière. Si vous saviez le nombre de personnels qui ne proviennent pas de la santé, qui sont là et qui travaillent corps et âme, on fait des heures supplémentaires, des 12 heures, 14 heures par jour, pour réussir à désengorger avec la rentrée des classes. C'est incroyable. Mais en tout cas, je me lève un chapeau
ben
à
oui.
nous tous. Oui, vraiment. Là,
j'ai envie de vous dire, Chantal, moi, je vous lève mon chapeau. Vraiment, c'est absolument remarquable. C'est intéressant parce que c'est un tout autre son de cloche par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Vous êtes sur le plancher du dépistage. Alors ça, c'est très précieux pour nous. Merci beaucoup, Chantal. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous écouter, d'avoir appelé. C'est vous, je me rends compte, tout le monde a à bout dans le toupet dans le réseau de la santé. Les RPA, ça n'arrête pas, le CHSLD, au dépistage, à la vaccination. Puis message de Chantal, c'est pas compliqué, c'est faites-vous vacciner.
Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando.
Qui sont les grands gagnants de la vaccination obligatoire dans les réseaux de la santé? Monique nous écrit, les grands gagnants, c'est les soignants non vaccinés qui se sont mis en congé de maladie sur l'assurance salaire. Merci à Thomas qui, sur les tests de dépistage, prend le soin de nous écrire que le test, un test coûte entre 55 et 102 $. C'est ce qu'il a entendu à Radio-Canada pour le coût du prélèvement, transport, analyse, etc. Un autre auditeur nous écrit, au CHUM, c'est plus de 14 000 employés par jour. Imaginez si on devait tester 10 à 15 employés non vaccinés à tous les jours. Ça ferait, comme Chantal nous l'a dit là, un peu avant la pause, ça ferait une quantité absolument incroyable d'employés à tester. On va aller joindre Karim qui souhaite nous livrer sa vision des choses. Karim est infirmier dans la vie. Et Karim, bonjour, vous étiez médecin en Algérie, c'est bien ça?
Oui, bonjour Nathalie, merci pour votre belle émission. Oui, effectivement, j'ai un mot à dire parce que je connais très bien le Québec. Ça fait 20 ans que je vis là-dedans. Je suis enseignant pour les infirmières auxiliaires et PAB. Il y a la communication qui n'a pas marché. On peut pas dire à quelqu'un de brûler. Tu sais quoi? Si tu te vaccines pas, je te fous à la porte. Vous savez, les infirmiers, ils attendaient que ça. Au lieu d'en faire un sujet de négociation vraiment important, ils ont tout cassé. Il ne fallait pas dire ça. Il fallait... Vous savez quoi? OK, on va discuter de tous les critères et on va essayer de s'entendre. Parce qu'il y avait un enjeu énorme, c'est le patient. Oui, je suis d'accord, mais c'est l'art et la manière qui n'a pas été respectée.
C'est clair, alors, Karim. Dans le fond, vous dites... Karim, vous dites que le gouvernement s'est pris de la mauvaise façon.
Oui, c'est tout. C'est très, 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 très violent ce qu'ils ont fait, bien que je leur donne raison. Je suis totalement pour la vaccination. Je suis doublement vacciné. S'ils m'ont dit « vaccine-toi 20 fois », ben j'irai me faire vacciner. Parce qu'il n'y a pas de curatif, on n'a que le préventif. Il ne faut pas non plus virer fou, là. On n'a pas d'autre solution. Hein?
OK.
Mais... ce que je veux dire, c'est que je suis en train de monter une société, et ça marche très bien, on va aller chercher des contrats de travail en Tunisie pour des PAB. Je suis formateur. Je veux les former là-bas, d'accord, selon les normes canadiennes, avec tous les standards, et puis qu'ils soient vaccinés et qu'ils viennent aider. Et sinon,
merci
de
beaucoup.
Nous mettre la main dans la main pour trouver aussi des solutions.
Bien, merci beaucoup, Karim. J'adore votre suggestion, effectivement, votre solution. Invitons des Tunisiens, des Marocains qui sont... Karim dit, moi, je suis prêt à les former. Effectivement, et ça nous en prend. J'ai un peu de difficulté. Ça fera l'objet d'un autre sujet entre nous, le lien entre immigration et le gouvernement actuel. Mais enfin, bref, oui, ça fera l'objet d'un autre segment. On va aller joindre Michel qui souhaite s'exprimer sur le sujet, sur les grands gagnants de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Bonjour à vous, Michel.
Ben bonjour. Disons que quand on vous parlait des grands gagnants, pour moi, il y a une très grande évidence, c'est ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Ça, c'est sûr, là, c'est eux autres qui gagnent leurs points. Et puis là, de la façon que le gouvernement, ben j'ai un petit peu ce que Karim a dit, là, je suis un petit peu d'accord avec lui, mais sauf que au tout début, on disait que le gouvernement, ben, il ne se fie pas assez aux gens, qu'ils obligent le port du masque, ils obligent ci, ils obligent ça. Mais pourquoi est-ce que il ne se fie pas à l'intelligence et à la bonne volonté des gens, bien, je pense que c'est ça que là, le gouvernement essaie de faire. Bon, on va se fier sur la volonté des gens puis leur intelligence, puis ça ne marche pas. Parce que même négocier avec ces gens-là, pour moi, c'est vraiment une perte de temps. Ils ne veulent pas. Puis là, ben, ils mettent le bâton, puis ça n'a pas l'air... Ils n'ont pas l'air à réagir non plus.
Mais ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Michel. La grande question, là, c'est sur les 11 000 soignants, c'est le journal Le Soleil là, qui nous disait la semaine dernière qu'ils risquent de se retrouver en congé forcé le 16 octobre au matin. Entre aujourd'hui, ou admettons, entre le moment où le gouvernement a pris sa décision et le 16 octobre, combien de travailleurs du réseau de la santé vont se laisser convaincre d'aller se faire vacciner? Et s'ils se font vacciner, et entre la première et la deuxième dose, une période d'au moins 4 semaines qui devra s'écouler. Ça veut dire que, sans être prophète de malheur, j'ai l'impression qu'on va avoir un mois difficile à passer entre le 16 octobre et le 16 novembre, selon moi. Mais en même temps, on n'a pas ces données-là pour le moment. Mais en espérant que la vaccination obligatoire crée un effet, je le souhaite, là, je le souhaite ardemment. Il y a un auditeur qui nous écrit, puis là, je vais vous faire sourire. Ben non, je vais garder ce commentaire-là pour un peu plus tard. Les forces armées canadiennes ont tous été vaccinées. On a entendu parler donc de manifestations. Est-ce qu'on a entendu parler de manifestations quelconques? Non. On va dire pourquoi un traitement spécial pour le personnel hospitalier? Avant d'aller joindre Philippe, il y a un auditeur qui écrit « J'ai la solution! À go, on arrête d'avoir peur comme si c'était la peste noire et tout le monde retourne travailler. Go! » C'est une solution facile que je trouve sympathique. Il y a Pierre aussi qui nous écrit « Ah non, on arrête de niaiser. Vaccination obligatoire pour tous. » Puis à un moment donné, on va passer à un autre appel. On va aller joindre Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Je vous écoute, mon cher.
Moi, je pense que les gagnants, ça va être les gens qui sont atteints de cancer, de sida, de maladies graves, qui vont être protégés par le fait qu'il y ait moins de gens qui soient pas vaccinés autour d'eux. Fait que je pense qu'à court terme, ça va être les gagnants. Puis sinon, ben, à long terme, je pense que le système de santé, ça s'en va dans le mur, là, puis que le gouvernement n'aura pas le choix de changer les horaires, le TSO. Parce que les infirmières qui vont rester, ben, ils vont avoir le gros bout du bâton, puis ils vont se dire, ben, coudonc, on est fait à job, fait que.
Ça, Philippe, c'est très, très intéressant ce que vous dites. En fait, les difficultés vont peut-être transformer, si le gouvernement sait faire, peut-être qu'on va transformer nos difficultés en opportunités. si je comprends bien ce que vous dites, là, c'est que le gouvernement, étant confronté à des problèmes, à des ruptures de services, va être forcé de mettre fin au travail supplémentaire obligatoire et de changer des quarts de travail pour des 12 heures. C'est bien ça que je comprends?
Oui.
OK, c'est bon, c'est très, très bon, ça. J'aime ça. On part d'une situation difficile, puis on transforme ça en opportunité pour s'assurer que, dans le fond, ça marche, ça fonctionne. Autre réaction d'un auditeur, c'est pas une question de vaccin. Le gouvernement a voulu en faire un bras de fer. Pas question que je plie à leur demande, moi aussi. Je recule pas, point final. Là-dessus, effectivement, vous êtes tous unanimes, sauf Karim, là, qui apporte un autre point de vue en disant que le gouvernement aurait pu s'y prendre autrement. Mais sur la vaccination obligatoire, vous ne bronchez pas. Votre position, là, pour une large majorité d'entre vous, est toujours la même. Le gouvernement ne doit pas reculer. À 10h42, je vous propose une courte pause et après, un sujet qui porte sur les services de garde. On a l'impression qu'il y a plusieurs secteurs de notre société et qui sont en pénurie de personnel, mais il manquerait 1357 éducateurs et éducatrices en services de garde scolaire. Et je vous demande, qui garde vos enfants quand vous êtes mal pris la semaine?